Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor?
Non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
Mais attendez, shérif, vous trouvez vraiment qu'on a des têtes de tueurs en série?
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission de Ciné Primitif.
Avec bon. David Bobo.
Bonjour tout le monde.
Oui, bonjour, bonsoir.
Il fait chaud dans les studios.
Oui, il fait très 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 chaud. Hein. Voilà, on va pas en dire plus, BFM a déjà fait le taf.
Merci Bobo pour cette intervention.
Voilà,
c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'on a un peu chaud. Voilà.
Et aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude avec un nouveau thème. Et aujourd'hui, c'est le thème slasher. On va présenter 6 films et leur bande-son.
Ouais, thème
Choisi par Dahu.
Ouais, voilà, thème choisi par Dahu. On l'oublie pas quand même.
Super thème pour l'été.
Ouais, ouais.
Et on précise tout de suite, aucun film n'est fait pour les enfants.
Non. Et bon, c'est pas facile à se mater six films comme ça en très peu de temps. Voilà, faut être assez fort psychologiquement.
Faut aimer les meurtres.
Voilà, ce qui est pas mon cas. Donc ça a été assez difficile, je vous assure, sur le thème slasher. Mais bon, je me suis adapté pour les copains qui ont choisi le thème. Et j'ai choisi le premier quand même qui m'a un peu transcendé, qui était passé sur Canal plusieurs fois, mais je l'ai vu sur Canal. Il s'agit de Massacre à la tronçonneuse. Alors l'année de sortie, j'ai 74.
Ouais, c'est ça.
Mais je crois qu'il a été interdit, redistribué, etc.
Ouais, en Europe, il n'était pas distribué en 74 direct.
Voilà. Ouais, c'est aux États-Unis.
Il y a même d'autres pays nordiques qui l'ont interdit un peu plus longtemps.
Ouais, okay. Un peu plus sensible que,
ouais,
que
c'est
les
ça.
Autres.
Ouais, les petits corps au nord, ils ont un peu de mal. Donc film réalisé par Toby Hooper, avec à la distribution Marilyn Burns, qu'on peut retrouver dans Crocodile de la mort, Alan Danziger et Paul A. Partain. Bon, des acteurs,
on ne retrouve nulle part.
Exactement. Le synopsis, attention, accrochez-vous. Au fin fond du Texas, des habitants font une découverte macabre. Leur cimetière vient d'être profané et les cadavres exposés sous forme de trophées. Pendant ce temps, 5 amis traversent la région à bord d'un minibus. Ils croisent en chemin la route d'un autostoppeur et décident de le prendre à bord. Mais lorsque les jeunes gens s'aperçoivent que l'individu a un comportement inquiétant, voire menaçant, ils finissent par s'en débarrasser. Bientôt à court d'essence, le groupe décide d'aller visiter une vieille maison abandonnée appartenant aux grands-parents d'un des deux. Chacun leur tour, les 5 amis vont être attirés par la maison voisine. La rencontre avec ces étranges habitants va leur être pour la plupart fatale.
Les autochtones, ils étaient un peu chelous.
Ouais, c'est l'Amérique profonde là.
Oui. Surtout que ça part d'un vrai tueur à la base.
Edgen. Mais après, il y a beaucoup qui s'identifient à Edgen. En fait.
Ouais, notamment dans Psychose ou Buffalo Bill du Silence des Agneaux.
Oui.
Voilà, mais ce tueur Edgen, quand même, il faut
ouais, il faisait des photos forts avec des visages, hein, donc...
Ouais. lui, il fait des masques...
Ouais, mec sympa, quoi, le mec à qui t'as envie d'offrir un verre la première fois que tu le rencontres, quoi. Qui a été reconnu coupable d'une dizaine de meurtres. Endgame, si jamais, c'est un personnage qu'il faut retenir.
Il gardait sa femme, sa mère morte chez lui...
Ah, okay. Ouais, un grand malade, quoi.
Enfin, l'inspiration de Psychose, ok, je comprends.
Un mec qui avait des passions différentes des nôtres. De son propre aveu, Toby Hooper a choisi donc la tronçonneuse comme arme pour son terrifiant. Et il l'utilise énormément dans la bande-son pour accompagner
pour la tension.
Musique, sur les meurtres, quoi. Donc voilà. Après, c'est un film à très très petit budget.
Ah oui. Bah clairement.
Un des premiers slashers en plus.
Mais c'est vraiment un des premiers de la nouvelle génération.
Ouais.
Hitchcock. Hitchcock ouais,
mais Toby Hooper, c'est vraiment son premier film. Après, il a fait Merde Poltergeist qu'on a.
Ah oui, on l'a présenté.
Mais sans parler d'Hitchcock, peut dire que c'est un des premiers quand même.
Le premier sorti avant les autres.
En ouais, voilà, c'est ça. Très très perturbant quand même. Ouais. Très perturbant.
Bah, oui, parce que ça va à contre-sens la culture hippie et ces périodes-là.
Clairement. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu des hippies dans leur van.
Complètement qui arrivent, même.
qui arrivent dans un milieu
plutôt hostile. Hein,
pour... très hostile, ouais.
Puis en plus, c'est sympa, tu vois, dans les années 70, ils s'occupent de l'handicapé, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ouais, tu trouves ça normal. Dans les années 70, non, en fait, l'handicapé, tu le laisses à la maison, quoi. Ouais.
Et parce là, que non, c'est, c'est dans sa frère. Maison qu'ils vont aussi. Hein, c'est dans la maison de sa famille qu'ils
vont. Ouais, oui, oui, bon. Mais en plus, j'aime bien le personnage de l'handicapé.
Ouais. Il est cool, un peu naïf, gentil.
Ouais, bah, qui s'énerve quand il entend les autres. Ouais, non, j'aime bien. Ouais.
Tous les personnages, extrêmement frustrés. Il n'y a pas énormément de personnages, mais tous les personnages sont vraiment bien.
Ouais. Et puis, ça pose les bases. Ce sont deux... C'est pas deux bimbos, tu vois, les femmes dedans. C'est deux vraies jolies filles. Avec la mode de l'époque, mais c'est deux vraies jolies filles.
Et puis, on n'a pas dit, on a choisi les films aujourd'hui dans l'ordre chronologique de leur sortie.
Ouais, c'est ça.
Et
ouais, c'est...
celui-là, il pose quand même toutes les bases du slasher moderne.
Alors, toutes, ouais. Je sais pas, mais beaucoup. Je suis complètement d'accord avec toi, énormément. J'avais juste une chose sur Gunnar Hansen qui a participé
pour revenir aux bases qu'il pose, c'est surtout c'est le premier qui a posé un outil comme arme en fait.
Ouais.
Après, on va voir dans différents sachets.
Et le masque aussi.
Le masque aussi, non. Peut-être.
Ouais, je sais pas.
C'est une bonne question.
C'était une connerie.
Ouais, oui, bien sûr. Non, mais avant, c'était couteau, pistolet, du moins, ces armes classiques. Là, il prend une.
Ah, la tronçonneuse, quoi. La tronçonneuse. Et ça, c'est fou.
Et c'est l'arme qui fera tout le charme de cette série.
Bien sûr, avec la danse à la fin de la tronçonneuse. Limite comique. Mais,
ouais, c'est un grand classique, à voir encore une fois.
Ouais, vraiment. Ouais, clairement. Un peu difficile, après le grand-père, 36 heures de maquillage je crois, hein, sur le masque du grand-père, c'était un calvaire pour l'acteur, bref, voilà, mais juste l'acteur qui incarne donc le tueur, pour s'imprégner du personnage, est allé dans un refuge pour handicapés mentaux, et a observé leurs faits et gestes pour pouvoir jouer le tueur à la tronçonneuse.
C'est vraiment une autre époque, les années 70.
C'est extraordinaire ça, quand même. Donc voilà, au final, le tournage devait durer 7 jours, mais ça a duré plus d'un mois. Il y a eu une énorme censure autour de ce film classique.
Ah bah, il a relevé le niveau de la censure, parce qu'avant, il y en avait, c'était suggéré, principalement, on montrait pas, là, t'as quand même, grosso modo, l'arrivée du gore qui était pas présent dans les films.
Exactement.
Jusqu'à là, dans les films distribués au cinéma. Mais en soi, c'est ce qu'a fait l'électrochoc et qui a amené le style vraiment.
Slasher.
Slasher entre guillemets, ouais.
Ouais, ouais.
Parce qu'on peut pas vraiment dire aussi, en soi, c'est un slasher, mais il n'y a pas qu'un seul tueur en fait, c'est toute une famille de cannibales.
C'est un peu ce qu'on trouve plus tard dans La Colline à des yeux, même genre de...
Horrible.
C'est le même plan de bus que dans Little Miss Sunshine aussi avec Batman.
Alors d'ailleurs, il est moins feel good que Little Miss Sunshine.
D'ailleurs, le réalisateur de Little Miss Sunshine a dit fortement ça, très inspiré.
Je dédicace ça à Tommy Hooper.
Non, voilà, la musique sélectionnée pour ce film. Bah, la musique a été, avec très peu de budget, faite par Toby Hooper et Wendell, son ingé son, tournée pour 140 000 $. Donc il pouvait pas payer effectivement de compositeur, donc il l'a fait lui-même. Je vais quand même...
L'ambiance sonore est vraiment bien. Hein.
Je vous mette l'ambiance sonore en fond de notre conversation sur ce film. Et je vais plutôt vous passer, pour vous faire plaisir, un des premiers morceaux du groupe The Ramones sur leur premier album Chainsaw, en référence justement à ce film. Et donc voilà, je me suis permis de.
C'est la dernière fois.
Ouais,
on se l'écoute.
Voilà, The Ramones, Chainsaw. Yeah.
Et de retour dans Ciné Primitif, on vient de s'écouter Les Ramones, c'est une musique qui n'est pas du tout dans le film que tu as présenté.
Non, pas du tout, mais c'est le titre de leur premier album, Chainsaw, référence complètement à ce film. Voilà, sachant que la bande-son de Toby Hooper, non plus, est très très bien en fond. Mais c'est écouté à la radio, j'ai préféré vous faire plaisir, à vous les auditeurs.
Ok, bah moi je te propose de passer au prochain film, et il y aura la musique du film, du thème principal, même je spoil un peu.
C'est bien. C'est
et
bien.
Le prochain film, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui dans l'émission.
En même temps, la musique, elle est ultra connue.
Ouais, bah oui. Et on la reconnaît entre mille.
Exactement.
Et John Carpenter, je sais pas si ça vous parle.
Jésus Carpenter.
Jésus Carpenter, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas présenté.
Dieu lui-même, Dieu en présence.
Ça doit être au moins l'8e film qu'on présente dans Ciné Primitif. En seulement 2 ans.
Ouais, alors si je peux me permettre, vas-y. Franchement, de tous ceux qu'on a présentés, et même de tous ceux que j'ai vus de John Carpenter, je trouve que c'est le moins bien.
Ah ok, bah t'as pas vu toute la filmographie de John Carpenter alors.
Oui aussi, c'est vrai. Moi c'est pas beau.
J'aime beaucoup celui-ci et c'est bien pas sûr. Beau.
Passer les années 2000, ça se complique un petit peu.
Ouais, même avant il y en a eu, je suis moins fan mais bon. Là, le film c'est Halloween forcément de 1978. On parlait de films qui ont posé les bases du slasher.
Clairement, posé toutes les bases.
Le tueur masqué dans l'ombre qui va tuer un groupe d'adolescents, c'est clairement lui. Donc à la distribution on a Jamie Curtis quoi, qui a joué dans Un fauteuil pour deux, True Lies, à couteau tiré, qui est la final girl quoi.
Elle qui est la fille de l'actrice principale de Psychose, c'est pour ça qu'il l'a pris.
Ah ok, et qui a fait carrière après. Hein,
oui bien sûr, mais c'est vu qu'à l'époque pour prendre des acteurs ça coûtait cher, il a préféré miser sur le nom et que ça fasse un peu de buzz grâce à ça. En prenant la fille de l'actrice principale de Psycho.
À la distribution, on a aussi des acteurs moins connus. Donald Pleasance, qui a joué dans La Grande Évasion. Ouais. Nick Castle.
Nick Castle a réalisé un des Halloween, je crois, aussi.
Ouais, c'est pour ça que son nom me disait quelque chose et je ne l'ai pas noté, je suis désolé. Et P.J. Souls, qui a joué dans Carrie au bal du diable. Mmh. Alors, pour le synopsis d'Halloween, le soir d'Halloween, dans la petite ville de Haddonfield, l'adolescent Michael Myers s'échappe d'un hôpital psychiatrique 15 ans après avoir assassiné sa sœur. De retour dans sa ville natale, il traque un groupe de lycéennes, notamment Laurie Strode, donc Jamie Lee Curtis. Le docteur Loomis, psychiatre de Michael, tente désespérément de l'arrêter avant qu'un nouveau massacre ne se produise. C'est un tueur dans l'ombre qui tue sans raison, on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, dans le film, il l'appelle The Shape, je crois, en anglais, qui veut dire la forme. Et dans la VF, c'est la chose.
Ouais, après Michael Myers, franchement, si vous avez jamais entendu ce nom, vous venez d'une autre planète.
Ouais, il y a eu au moins 15 films.
Tu sais pourquoi ils ont choisi ce nom ?
Non.
C'est le nom du producteur du premier film de John Carpenter, Assaut sur Central 13. Que j'ai pas présenté en huis clos, mais j'ai dit.
D'accord, ok, super.
Et la ville de Haddonfield, en fait, c'est la ville où est née Deborah Hill, la femme de John Carpenter, qui a écrit le scénario.
Magnifique.
D'accord.
Ouais, superbe anecdote, hein. Tu les as notées, celle-ci ?
Ouais, bah j'en ai plein des anecdotes. D'ailleurs, ça tient sur 2 fiches et tu m'as un peu engueulé pour ça.
Bah oui, la planète, bonhomme.
Désolé pour la planète. Le film a été réalisé avec un très petit budget. Il mise surtout sur la tension. La mise en scène et l'atmosphère plutôt que sur les effets gore. C'est vrai qu'on boit jamais de sang, etc. C'est.
Ouais. Et c'est là, c'est là qu'il a tout compris par rapport aux autres. C'est le subjectif. C'est le suggestif. Ouais, c'est ça. Et c'est génial. Tout marche en fait. Le rythme est bon. Le montage est bon. Moi je l'ai revu avec plaisir pour je ne sais pas combien de fois.
Il n'y a pas beaucoup de meurtres en fait. Parce que maintenant dans les slashers ils ont tendance 6, à.
5.
Ouais, à multiplier le nombre de morts là, c'est vraiment.
Et c'est ce qui est venu le déclin d'Halloween.
Ouais, une présence pesante tout le long du film. Tu sais pas quand il va attaquer, tu sais pas où il est, s'il est dans le placard, s'il est derrière le canapé.
Ouais, après, franchement, je m'attends... Enfin, je l'avais déjà vu il y a longtemps, mais je savais pas à l'époque, quand je l'avais regardé, que c'était un John Carpenter. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai découvert John Carpenter plus tard, après avoir vu Halloween. Je trouve que le personnage, on le connaît pas.
Mais c'est le but.
Ouais.
Et ça, moi, ça me.
Mais justement, c'est la forme. Enfin, c'est une chose. C'est, il est inhumain. Même son psychiatre le dit. C'est le mal incarné.
C'est le diable. Ouais.
C'est le mal incarné. Il y a rien dans ses yeux. Tu sais pas pourquoi il tue. J'aime bien ça.
Et tu l'as vu le reboot de Rob Zombie ?
Non.
Rob Zombie a réussi un truc intéressant au début du film, c'est qu'il justement il a réécouté tout, tout ce que Loomis, Dr. Loomis dit. Et en fait, il a... Du moins, il y a toute une séquence avec le, l'enfant et tout. Et,
il a recréé le profil psychologique du
mutant. Et ce qui marche,
ça peut être intéressant.
Le film, après, par contre, perd en sa saveur parce que tout ce qui marchait dans Halloween, le montage à la fin qui est génial, il n'arrive pas à le reproduire dans son film parce que c'est pas le même niveau entre Rob Zombie et John Carpenter.
Qu'il a fait un 2 Rob Zombie qui est pas ouf.
Ouais, je crois que j'ai pas eu trop le choix. Du moins, c'est un peu un film de thune, le 2 Zombie.
Ouais. En tout cas, à l'origine, John Carpenter avait pour projet, et ça c'est important, de faire chaque année un film sur Halloween, mais pas avec Michael Myers. Mais en fait, ça a été un tel succès que y a un deuxième qui a dû sortir avec Michael Myers. Le troisième n'a rien à voir, c'est des masques
qui... Pas la nuit des masques,
Ouais, je ne sais plus quoi... Le sang du sorcier.
Le sang du sorcier.
Avec des masques qui prennent possession des gens.
Génial.
Ouais, mais du coup, ça a été un échec. Personne n'a aimé. Et pour le 4, ils sont venus à Halloween, donc plus avec John Carpenter.
Ouais, ni à la production, John Carpenter, ni à la réalisation. Ouais, voilà. Dans le deuxième, c'est juste production. Scénario et relecture de scénario et production. C'est
mais ça. Voilà, pour un peu les noobies, un peu comme moi, le Michael Myers, le masque de Michael Myers, vous le retrouvez dans plein de films. Plein de films.
Et tu sais comment ils ont créé le masque, ça c'est assez drôle aussi.
Ah, raconte-moi.
C'est en réalité un masque modifié du Capitaine Kirk de Star Trek, qu'ils ont juste peint en blanc pour le rendre plus inquiétant.
Ouais. Magnifique.
Ouais.
Et dans le 2, ils ont réutilisé le même, sauf que il était plein de poussière et plein de nicotine, et du coup, il a une tête dégueulasse.
Donc voilà pour Halloween, ce que je peux dire, si vous avez quelque chose d'autre.
Je veux dire que John Carpenter réussit, au-delà d'un super film, une masterclass au niveau de la bande-son, parce que...
Ouais.
Là, clairement,
j'allais venir à la musique.
Oui. Là, je suis vraiment d'accord avec toi.
Tout ce qui tient, le film, c'est principalement la musique, le montage.
Et la musique, la musique, t'entends les trois premières notes,
t'es en angoisse.
Ah ouais.
Tu te dis, il est là, il est derrière moi.
Après, il a remasterisé sa musique parce qu'il y a eu d'autres Halloween qui sont sortis et qui sont scénarisés et produits par Carpenter, Halloween Kills et Halloween.
Ends,
ouais. En gros, qui reprennent directement après le 1. En fait, ça passe tous les autres.
Même le 2.
Ouais. Et la musique, il l'a refait avec son fils, Cody Carpenter. Mais là, je pense que c'est original.
En tout cas, ça tombe bien. Ouais, j'ai mis l'original de 1978. Et ça tombe bien, c'est le thème principal. Et on se retrouve dans Ciné Primitif autour du thème slasher, et c'était la présentation d'Halloween et la musique de John Carpenter, le réalisateur du film.
Ouais, un chef-d'œuvre.
On reste sur des classiques, puisque le troisième film est un grand classique aussi, après ouais. Massacre à la tronçonneuse et Halloween.
C'est A Nightmare on Elm Street. En français, c'est Freddy...
La nuit.
Les Griffes de la nuit. De la nuit. Ouais. Réalisé par Wes Craven en 1984. D'un scénario de lui-même, c'est un film américain qui a coûté 1,8 million et qui a rapporté 58 millions. Comme quoi les slashers avaient encore le vent en poupe à cette période-là. Alors, dans le personnage principal, Freddy Krueger est interprété par Robert Englund, qu'on retrouve dans Wishmaster, dans les dernières saisons de Stranger Things, et dans Master of Horror. Il y a Nancy Thompson qui est interprétée par Heather Langenkamp. Elle a pas fait grand-chose à parler Freddy. Lieutenant Thompson, John Saxon, qui a joué dans...
Yes, Opération Dragon.
Voilà.
Bruce Lee, présenté par Bobo, yeah. Et je l'ai tout de suite vu, John Saxon.
Oui. Et Glenn Lance, qui est interprété par Johnny Depp, donc...
Son premier rôle, je crois.
C'est son premier rôle.
Enfin, ouais. Après 21 Jump Street.
Je crois que c'est son... C'est son vrai premier rôle en long métrage.
Ouais.
Voilà. Alors, dans une paisible banlieue américaine, des adolescents commencent à faire le même cauchemar. Un homme au visage brûlé, armé d'un gant muni de lames tranchantes, les traque pendant leur sommeil. Mais bientôt, les rêves deviennent mortels. Nancy découvre que pour survivre, elle devra affronter Freddy Krueger dans son propre univers, celui des cauchemars où la frontière entre les rêves et la réalité disparaît. Alors ce film, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va prendre un contre-courant les slashers. En fait, tous les meurtres vont être commis dans les rêves des enfants et... On va partir, c'est plus un teenage movie qu'un film pour adultes.
Ben, ouais. C'est le seul de la série.
Je dirais 14 du mois.
Ouais. Mais c'est le seul de la sélection. Et je dirais un des seuls slasher à être dans le sci-fi, quoi.
Dans l'univers un peu fantastique. Bah, vu qu'on est dans le rêve, ça peut se permettre plein de choses.
Oui, clairement. Freddy joue justement avec les peurs.
On est dans le fantastique.
Il peut tout faire, il est maître des rêves des ados.
C'est ça.
Ah, mais quand même, ça reste un petit budget. Le producteur Robert Shay, c'est celui qui a fondé New Line. Donc à l'époque, il avait vraiment pas de thunes, il faisait pas de films qui marchaient. Et grâce à Freddy, il va produire tous les Freddy après, parce qu'il y en a eu une chier de Freddy.
Ouais, je crois que c'est
Et le studio a été sauvé par ça. Et après, New Line a fait Les Seigneurs des Anneaux, etc. Mais c'est grâce à Freddy que New Line a existé.
Okay.
Et après. A réussi à faire des sous pendant une dizaine d'années et après à produire des films un peu plus ambitieux. Donc c'était un peu risqué de partir avec Wes Craven qui avait fait quand même la Colline des Yeux et Dernière Maison sur la droite, il me semble, juste avant. C'était un réalisateur un peu ambitieux, mais pas avec des moyens non plus démesurés. C'est pas un Spielberg ou quoi. Mais il a réussi à placer son scénario et au final le film a réussi à rencontrer un grand succès. Effectivement, c'est parce qu'aussi il cassait les codes de tous les slashers qu'il y avait depuis des années. Il y avait déjà eu d'autres Halloween, des Vendredi 13 à l'appel.
C'est vrai qu'on a présenté Freddy, enfin là c'est le premier film de Freddy, mais on aurait pu présenter aussi le premier film de Jason. Vendredi 13 qui est un peu de la
même. Alors moi je suis pas fan.
Le premier il est particulier, moi j'aime bien, mais on voit pas Jason dedans presque.
Ce que je veux dire c'est vraiment ça a lancé aussi. Des Jason il y en a eu 10, 11,
mais regarde,
des Freddy 7, 8.
Après Wes Craven il a fait un autre truc qui a énormément marché, c'est les Scream. Et Scream là il y en a encore plein qui sortent.
Le premier il est.
C'est beaucoup moins créatif que.
Wes Craven après ce film là, il a fait deux films qui avaient bien marché. Comme je disais, quand il a des yeux, la dernière maison sur la droite. Mais ce film là l'a lancé totalement.
Après, dans les slashers.
Alors après pour revenir au film, ils ont quand même fait preuve de beaucoup d'ingéniosité sur énormément de scènes. Ils ont créé une salle, une chambre qui pouvait pivoter à 360 degrés en fait.
Ouais, avec Johnny Depp.
Sur l'axe horizontal. Avec Johnny Depp et la première victime, ils ont utilisé la même pièce. Ça marche toujours malgré les années, ce film-là, il a plus de 30 ans.
Ouais, c'est vrai que ça vieillit pas.
Il y a 40 ans même.
42.
Il y a des effets qui vieillissent un peu plus quand il a les bras qui s'allongent, etc. C'est un peu le côté grand guignolesque de Freddy aussi.
C'est le but aussi, ouais.
Puis après, cette chanson aussi, cette chanson chantée par les enfants, à chaque fois, on la retrouve dans tous les Freddy.
Alors en VF, elle est nulle.
Après, moi, je l'ai vu qu'en VF. Je t'avoue, j'ai pas regardé la VO de Freddy.
Non, oui, mais la chanson est mieux en VO quand même.
Cette chanson, elle reste en fait, au final, ouais, sur tous les Freddy, quoi.
Et Freddy continuera d'hanter les cauchemars pendant des décennies et des décennies, ça continue toujours. Ouais. Pour en venir aux outils, comme je disais avec la tonceuse, celui-ci, ils ont créé un gant avec...
Alors ça, c'est fort, ouais. Ça, c'est au moins, c'est une arme originale.
Ouais, c'est lui qui l'a dessiné lui-même, Wes Craven, et la première scène où tu vois le gant qui ouvre un rideau, bah, c'est le mec en charge des effets spéciaux qui le fait, parce que les lames, c'est des vraies lames, en fait. C'est Marc de Fabrique, il y a le pull, le visage et la griffe. Quoi.
Créer un personnage, ouais. C'est magnifique.
Moi, je vous conseille de voir ce film, surtout pour la scène finale qui est ridiculement moche.
Pourquoi?
Il y a eu plusieurs versions de fin et je crois qu'il a choisi la pire.
En fait, non, ils ont mis toutes les versions. Ouais. C'est la fin, Wes Craven, en gros, il voulait que ça se finisse, que les jeunes qui partent en voiture et les filles qui font de la corde à sauter, qui chantent la musique.
Ça, c'est
le,
pas mal.
Le producteur, il voulait que la mère, elle se fasse attraper par la porte.
C'est ça, c'est dégueulasse.
Et du coup, il a proposé aussi une scène où il se barre avec la voiture et Freddy conduit la voiture.
Ok.
Et Wes Craven a dit, tu veux tourner cette merde, tu la tournes tout seul. Et du coup, le producteur a dit, bah, je mets toutes les trois fins à la suite. Et il a mis fins à la suite.
Ok, ouais, la fin du film est un peu bizarre.
Ouais, mais c'est tordu parce que du coup, t'as trois fins.
Ok, ouais,
bon, ça, alors,
tout s'explique.
Voilà. Après, Wes Craven, sur le deuxième, je crois qu'il a fait que le scénar, reviendra après sur un des derniers qui est assez sympa. Freddy, c'est un des grands classiques avec Michael Myers.
Et Leatherface.
Bien sûr, Leatherface.
Du coup, on va s'écouter la bande-son de Freddy. Le compositeur, c'est Charles Bernstein. Et c'est le thème principal.
De retour dans Ciné Primitif, toujours sur le thème Slasher, et on vient d'écouter Dahu.
La bande-son de Nightmare on Elm Street.
Et on passe au film suivant, Bobo.
Oui, Haute Tension, sorti en 2003, réalisé par Alexandre Aja, qui a réalisé aussi La Colline des Yeux, Crawl ou Oxygène. Écrit par Alexandre Aja et Grégory Levasseur. À la distribution, la magnifique, la sublime Cécile de France, qu'on a vu un ou deux ans plus tôt, je crois, dans l'Auberge espagnole. Tour du monde en 80 jours, avec Jackie Chan, que je vous conseille. en étant fan de Jackie Chan. Mesrine, et plus récemment aussi dans Dalloway, que je vous conseille, qui est disponible sur Canal+. On retrouve aussi Mei Wen, qui a joué dans Léon, Cinquième élément, puis actrice et réalisatrice dans Police, film très très intéressant.
C'est sympa, Police.
Ouais. Mon roi ou ADN. On retrouve aussi Philippe Naon, ange gardien, avec donc Depardieu et Clavier, La Haine, Les Visiteurs, Rivière Pourpre, Pacte de Léou, Calvaire, Adèle Blanc-Sec. Bref, un acteur de second rôle que vous allez retrouver dans énormément de films français.
Donc c'est celui qui fait le rôle du tueur.
C'est ça, le rôle du tueur.
Dans Calvaire, celui qui encule les cochons.
Ah ouais, non, pas ce film, il est... Je veux pas le revoir, celui-là. Il m'a traumatisé.
C'est je sais pas pourquoi. On se calme sur Calvaire, on se calme. Je sais que Dave va nous le présenter.
On l'aura encore.
Voilà. Non, vraiment, une distribution qui met la femme un petit peu au centre de cette œuvre. Et je m'en réjouis, parce que c'est deux femmes très, très, très talentueuses dans le monde du cinéma français.
J'avoue que Mei Wen, c'est impressionnante...
Ouais, bon, sur ça. Et puis sur sa carrière aussi, et, en termes d'actrice et réalisatrice, voilà, avec Cécile de France, extraordinaire.
Ouais, ça marche bien.
Sur le synopsis, Marie, une étudiante de 20 ans, révise ses examens dans la ferme isolée des parents de sa meilleure amie. En l'espace d'une nuit, un tueur, qui ignore son existence, assassine à tour de rôle les membres de cette famille. Et kidnappe donc sa meilleure amie. Mais qui est joué par Mei Wen dans sa fourgonnette. Un vrai film de genre. Alexandre Aja et Grégory Levasseur souhaitent faire un film d'épouvante dans les lignées d'Evil Dead, Massacre à la tronçonneuse, Shining, Maniac ou encore Halloween. Pour le réalisateur, et je cite, aujourd'hui la plupart des films d'horreur fonctionnent sur le mode ironique. On tourne le genre en dérision tout en utilisant ses ficelles. Comme si plus personne ne l'assumait. Pour notre part, nous souhaitions retourner à la source, plonger le spectateur dans un vrai survival, une expérience au sens propre du terme.
Ils ont réussi.
Clairement, parce que là, le maître mot, c'est la survie.
C'est le premier film d'Alexandre Aja en tant que réalisateur, du moins un gros film. Après, je me souviens pas s'il avait fait un truc avant.
Oui, mais...
Parce que Inazio, c'est après. Crocodile, c'est récent, c'est sorti il y a moins de 10 ans. Mais Alexandre Aja, c'est le gros réalisateur français qui a tapé aux États-Unis grâce à ce film.
Ça fait plaisir de voir un film français qui sort un peu de ce qu'on voit habituellement.
Exactement, et qui se sert vers véritablement des codes américains. Tu vois, la campagne profonde, la maison à la campagne.
Ça marche aussi en France.
Ouais, mais même si là, justement, c'est une famille, une très belle famille.
Aisée, ouais.
Tu sens que le père il bosse, enfin tu vois, c'est pas des demeurés comme dans Massacre à la tronçonneuse, quoi.
Non, t'as un mélange de Massacre à la tronçonneuse, Jeepers Creepers, tu vois, avec le mec en fourgon.
Et il fait peur, il fait peur, vraiment. Philippe Naon là-dedans, il fait très très peur, et il est très bon.
Tout le long du film, de toute façon, t'es sous tension, il n'y a pas un moment de.
Il n'y a pas un moment de répit dans ce film.
Non, ouais, bah moi je trouve que ce film il est bien parce qu'il n'y a pas de répit, un peu comme Halloween où tu.
T'es tout en angoisse.
T'es pris dans l'angoisse et ça marche bien. Bon, bah, c'est de toute façon, tous les autres c'est pareil, mais c'est bien fait. Le montage marche vachement bien. C'est Baxter, un réalisateur de films un peu chelou qui l'a fait.
Ouais, après.
J'avais vu qu'une fois, je l'ai revu parce qu'en fait, c'est un film. Du moins, une fois que tu l'as, t'as la clé.
En
le revoyant, j'ai apprécié la réalisation.
Ouais. Si le deuxième visionnage peut être intéressant.
J'ai hésité à le prendre pour un thème amour ou Saint-Valentin.
Ouais, il colle plus au thème slasher. je t'aime que l'amour, je vois moyennement.
Un petit peu quand même. L'obsession. La base du film, c'est l'amour. Mais ça reste un film d'amour.
Voilà. C'est pas un film qui parle de l'amour. Hein.
Ça parle d'amour.
Regardez-le, faites-vous votre propre opinion.
Moi, je le conseille. C'est un film qui a vraiment bien marché et qui marche toujours.
Ouais.
C'est bien réalisé, les actrices sont bonnes et
même excellente. Cécile de France, je la trouve merveilleuse. Pour la musique, j'ai sélectionné.
Fais-nous rêver.
Donc, non pas François Eude Chanfro qui a réalisé aussi la composition de La Colline à des yeux, mais
Didier Barbelivien et Félix Gray.
Voilà pour...
À toutes les filles.
À toutes les filles. Pour la bande-son, à vous présenter. Faites-vous plaisir. Et c'est pour ça que ça reste un film d'amour, parce qu'il y a des chansons d'amour dans ce film.
Bah voilà, d'amour forcé.
On s'écoute ça.
Allez.
À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baisers volés, je suis resté adolescent. Elles savaient des océans au fond des yeux. Elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Elles disaient que l'amour c'est toute une vie. Elles avaient dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elles gravaient nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elles pleuraient comme on pleure quand on a trop aimé.
Des océans au fond des yeux bleus.
À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, de leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent.
À toutes les filles que j'ai aimées avant, de plage au soleil en dîner dansant, aux secrets murmurés, aux passions déchirées, je suis resté adolescent.
Elles avaient des océans au fond des yeux.
Elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Elles disaient que l'amour c'est toute une vie à deux.
Elles avaient dans un sourire moqueur quelque chose de secret.
Elles gravaient
ça fait du bien, hein. Un petit Didier Barbe.
Un peu de chansons françaises dans ce monde de brut.
Pour le thème slasher, pour le film de Bobo Haute Tension.
Avec la magnifique Cécile de France.
Et pour le thème slasher, toujours on passe au film suivant. je vous présente Tucker and Dale Fight le Mal.
Alors, excuse-moi, mais je pense que tu t'es trompé un petit peu de thème.
Tu n'as pas vu le bon film.
Non, on est plus là sur de la comédie quand même.
Ça reprend tous les codes. Effectivement, c'est de la comédie, mais ça reprend tous les codes du slasher pour en faire une parodie. Donc c'était un peu la mode des parodies avec par exemple Shaun of the Dead un peu plus tôt qui a fait la parodie des films de zombies, mm-hmm. Là t'as Tucker and Dale en 2010, un film réalisé par Eli Craig qui a fait aussi Little Evil.
J'ai pas vu ça.
Je l'ai pas vu non plus. Au scénario, Eli Craig et Morgan Jorgensen. À la distribution, on a Alan Tudyk, Tyler Labin et Katrina Bowden pour le synopsis. Alors comme on l'a dit, c'est une parodie, hein. Tucker and Dale, deux rednecks simples et maladroits, sont pris pour des tueurs par un groupe d'étudiants lors d'un séjour en forêt. Une suite de malentendus transforme alors une situation banale en série de catastrophes mortelles totalement absurdes.
C'est des... Ah mais j'ai rigolé. Ouais. Mais vraiment, voilà.
Pas résumer... Comment on peut pas rigoler, toi, t'as pas d'âme.
Il est vraiment rigolé.
En gros, on a deux gros beaufs texans qui sont généralement les tueurs dans ce genre de film.
Qui sont maladroits, tout court.
Ils sont maladroits et il y a un groupe d'adolescents qui arrivent camper près de chez eux.
Avec, dans leur, au sein de ce groupe, un grand malade.
Un grand malade, ouais. Et eux, dans leur délire d'adolescent, ils sont persuadés qu'ils vont se faire tuer par ces rednecks.
Ce groupe d'adolescents...
Est suicidaire.
À un moment donné, ils voient des choses, effectivement...
Oui, au fait, c'est ça. C'est que eux, de leur vision...
Voilà.
De leur regard, il y a un moment où ils se baladent avec une tronçonneuse, d'ailleurs référence à Massacre à tronçonneuse, parce qu'il se fait poursuivre par des abeilles.
Ça, j'adore. Ah, c'est le regard, c'est le regard du jeune quand l'autre avec la tronçonneuse, il le dépasse. Et là, il court, il fait « Et pourquoi il me dépasse ?»
Mais le rythme est bon en plus.
Ah, ouais.
Plusieurs fois que je le vois, j'ai rigolé. Ah, les séquences.
C'est en trois séquences. Les meurtres sont en trois séquences. T'as la première, la deuxième et la troisième. T'as trois vraiment séquences de mort. Ouais. Pas de meurtre, de mort.
Ah ouais, Dieu, il touche à rien.
Oui, c'est ça. Et t'as trois séquences, mais qui sont ultra violentes. Ah bah... Et ultra rapides.
Ah,
et...
C'est vraiment gore. Moi, franchement, j'avais vraiment envie de présenter ce film pour le thème slasher parce que.
Avec Halloween, c'est indispensable.
Ouais, c'est vrai, c'est les deux que j'ai présentés.
Ah, mais j'ai vraiment beaucoup
rigolé. Tu l'avais jamais vu ?
Non.
Ouais.
Autant les classiques, je les avais. Shaun of the Dead, que j'ai adoré, sur lequel j'ai rigolé, j'ai vu en parodie. Je sais pas, je l'avais pas
mais
vu.
En plus, tu dis parodie, hein. Tucker and Dale Fight le Mal, ça te donne pas envie de le voir déjà.
Mais non, en fait, t'as pas envie de le voir.
Même la bande-annonce, hein, moi j'ai regardé la bande-annonce.
Ah, mais tu dis, oh, ça va être encore un slasher classique, machin, venu de Nidem, et au final. Moi, j'ai bien... Vraiment, regardez-le, vous allez bien rigoler.
Ouais, et en plus, il se moque un peu des clichés, quoi. Il détourne les clichés.
Non, il les utilise.
Il utilise les clichés, parce que ça reste dans le cliché, quand même. Hein. Les adolescents sont complètement débiles.
C'est clair.
Les rednecks, ils sont un peu débiles,
mais
les gens...
Est-ce que c'est vraiment un cliché ? Est-ce que toi, moi et Dahu, on n'était pas des débiles à l'adolescence ? Ouais.
C'est vrai qu'on aurait été capable de se faire un scénario comme ça.
Envoyer des fusées sur la lune à l'adolescence.
Complètement. Enfin, moi, tu me mets à l'adolescence, à 15 ans, tu me mets dans la forêt comme ça. Je t'annonce, pareil, il se passe des choses.
En tout cas, c'est un film qui a eu une sortie discrète, mais qui est devenu culte. Peut-être pas assez, je suis pas sûr que tout le monde le connaisse.
Je sais pas sur quoi c'était diffusé. Moi, avant, au cinéma, j'ai pas entendu parler de sa sortie. Plus tard, il y a une série de films comme ça qui étaient très drôles qui sont sortis. Terre sous les tropiques.
Ah oui, voilà.
Bah, ouais.
Votre Majesté, deux, trois autres films à la con.
C'est le genre d'humour absurde.
This is the End.
This is the End aussi.
C'est à peu près la même période et il y a une suite de films où tu tapes des barres.
Mais si vous n'aimez pas trop les slashers, les films d'horreur avec des tueurs, etc., sur les trois premiers classiques qui sont pas franchement très terrifiants. Mais maintenant, c'est assez terrifiant, assez gore, beaucoup plus réaliste. Mais celui-là, très réaliste, très gore. Mais alors, vous allez rire.
Vous allez changer de regard sur les bouseux. Si vous avez peur d'aller dans les petites campagnes.
Venez dans nos campagnes. Tomberez toujours sur des bisounours. Et c'est vrai, il y a beaucoup de bisounours dans les campagnes.
Ouais, ce qu'on peut dire sur ce film, pas grand-chose de plus, ça mérite le coup d'œil. Je vous propose de passer à la musique. Alors la musique que j'ai choisie, c'est la musique du générique de fin. C'est un morceau de country, forcément, du groupe The Stanfields.
Elle conclut le film en renforçant le contraste entre le comique et la violence. De retour dans Ciné Primitif, je suis trop content d'avoir présenté ce film Tucker and Dale pour le thème slasher, et c'était une bonne petite musique country.
Oui, un peu de joie, un peu d'humour dans ce thème quand même assez
sombre. Surtout avec le dernier film présenté par Dehu.
Oui. Je pense qu'il n'y a pas plus sombre.
Je vais vous parler de Maniac, sorti en 2012. C'est un film français, franco-américain. Il dure une heure et demie environ. Il a interdit au moins de 16 ans en France, aux États-Unis, je sais pas, peut-être un peu plus comme d'habitude. À la production, on retrouve Alexandre Aja, Grégory Levasseur, William Lustig. Alexandre Aja, Grégory Levasseur, on en a entendu parler juste avant dans
Haute Tension.
Exactement.
Okay.
Le réalisateur Franck Calfoun, pour moi, il a rien fait d'autre de spécial. Par contre, le scénario, c'est Alexandre Aja, Grégory Levasseur, qui ont même suivi sur le tournage et tout, ils étaient présents. On est dans un de leurs derniers super films qu'ils ont fait pour moi, à mes yeux. Faut souligner le travail de la photo, Maxime Alexandre. Et au casting principal, on trouve principalement dans le rôle de Frank Zito et Elijah Wood. Les autres acteurs sont assez méconnus.
Rodon Sake.
Exactement. Donc, je vais vous faire le pitch du film. À Los Angeles, Frank Zito, donc interprété par Elijah Wood, un jeune homme solitaire et profondément perturbé, mène une double vie. Restaurateur de mannequins le jour et tueur en série la nuit. Traumatisé par une enfance marquée par une mère abusive et instable, il assassine des femmes pour récupérer leurs scalps qu'il fixe sur ses mannequins comme pour recréer une présence humaine autour de lui. Son quotidien bascule lorsqu'il rencontre Anna, une photographe fascinée par son travail. Pour la première fois, Frank tente de nouer une relation sincère. Mais ses pulsions meurtrières et sa psychose deviennent de plus en plus incontrôlables. Alors ce film, c'est un remake d'un film réalisé par William Lustig, qui a produit celui-ci d'ailleurs.
Qui est sorti
en 80. Alors le film est pas entier, parce que celui-là, en fait, il y a une prise de position au niveau réalisation, c'est que presque l'intégralité du film est fait en POV, du moins en
point de vue de
la première personne. Et Alexandre Aja et Grégory Levasseur sont celui-là, se sont fait vraiment plaisir, vu qu'ils avaient la notoriété avec Haute Tension, La Colline des Yeux, qui était sorti après Haute Tension. ils avaient eu plus ou moins carte blanche. Et ils ont livré un film sans âme, dur.
Ouais, clairement.
La façon dont c'est justement filmé à la première personne, c'est assez perturbant. La façon dont c'est filmé, moi, je sais pas, j'ai eu deux sensations assez contradictoires. La première, c'est que tu te sens emprisonné dans la tête du tueur. C'est assez perturbant.
Bah,
et la deuxième, c'est que ça me sort un peu du film, des fois.
Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve ça moins choquant au final d'être l'agresseur parce que tu te dis que bah, tu serais incapable de faire ça et que c'est pas toi.
Ouais. Alors on a l'habitude dans les jeux vidéo.
Alors que quand tu es spectateur, tu peux tomber à n'importe quel moment sur... Enfin, pas à n'importe quel moment, mais tu peux, dans ta vie, tomber sur ce genre de choses. Mmh. Et donc... Alors que là, à la première personne, tu sais que ça t'arrivera jamais, puisque t'es pas ce genre
après,
de personne.
Après, c'est pas pour te représenter à lui, mais c'est pour comprendre sa folie, grosso modo. Se mettre dans sa névrose et justement, l'évolution du personnage par rapport au début, tu comprends pas vraiment, tu sais qu'il est malade mental, etc. Et ce personnage, il évolue quand même, tu vois. Il est instable et c'est quelqu'un qui est pas suivi par des psychiatres, etc.
Après, j'arrive pas à comprendre c'est comment il arrive à attirer des femmes alors qu'on voit clairement. Bon, après, peut-être parce qu'on est dans sa tête, on voit clairement qu'il est malade. Il bug souvent, il est.
Oui, mais après, on attire pas non plus.
Oui, peut-être que ça aide. Et puis c'est
et comme le dit Lucie, je sais plus comment, lui dit moi, je m'attendais à avoir un obèse avec les cheveux longs, gros.
Ouais, ok.
Il y va pas pour.
Oui, il force pas.
Bon, non, après, parce que tu vois qu'en fait.
Après, il fait un scalp.
Ouais, mais tu vois qu'en fait, il le veut pas vraiment. En fait, tu vois, les.
Ouais, c'est pas de sa faute. Hein.
Non, mais.
C'est la faute c'est de sa mère. Vraiment... c'est d'où vient des mamans.
Mais. Sûr. Et je sais plus qui c'est qui disait, mais à chaque fois qu'un mec a été interrogé, etc., dans son jugement, eh bien, à chaque fois, son enfance, il a eu des traumatismes par rapport à l'éducation de ses parents.
Là, c'est exactement ça. Et en plus, il y a une bande-son géniale d'Europe qui fait de la mélancolie. Le film est très mélancolique, en fait. Comme Halloween de John Carpenter, sans la musique, le film marche pas pareil, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
La musique est très « synthwave », entre guillemets, mais sans être agressif ou trop rock. Et elle te pousse dans les retranchements. Et tu sens qu'il y a le malaise, en fait, de la personne. Et les thèmes reviennent au bon moment. Parce que on est sur des musiques comme dans les autres films, avec « Part of Day », où t'as un thème, en fait... Tu reviens par séquence et moi je trouve en fait qu'il a tout compris le masseur parce qu'en fait non en 2012 les slashers en 2012 c'est clairement plus le vent en poupe hein. Il y a eu 24 screams,
il y a eu les remakes, il y a eu les remakes,
tous les reboots et tout. Et Maniac, c'est un français Alexandre Aja qui arrive avec son pécule aux États-Unis qui dit ouais bah voilà, moi j'ai fait un remake de Maniac. Les mecs disent ok.
Mais donc Maniac avait déjà eu un film avant.
Et en 1980, qui a été réalisé par William Lustig, qui est producteur sur ce film-là.
D'accord, et c'est peut-être ça que j'ai vu. Parce qu'en fait, en voyant Maniac, je me suis dit, les trucs en fait avec les mannequins et tout.
T'as tous les liens, t'as moins en vue intérieure, t'en as quand même, des meurtres en vue intérieure, mais là il a vraiment axé ça dessus pour, je pense, montrer la névrose, en fait, la folie, tu vois. C'est mieux amené que. Que dans certains films, pour moi, où on arrive vraiment à sentir le malaise du personnage qui est en pleine discussion avec quelqu'un et d'un coup ça part.
Puis surtout, c'est une vision complètement différente de ce qui a été fait avant, où justement là, tu incarnes le meurtrier. Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant. Non, mais après, moi, j'aimerais juste dire une chose, c'est-à-dire que à la base, il y a pas d'enfant méchant, il y a pas d'enfant mauvais, il y a juste de mauvais parents.
Après, ça peut pas être que de la faute des parents, il y a aussi des maladies psychiatriques qui existent.
Bien sûr.
Je suis d'accord. Mais il n'y a pas de véritable enfant mauvais à la naissance. C'est les parents qui font, qui éduquent, qui vont faire des enfants.
Et contrairement aux autres slashers, là on voit la jeunesse de l'enfant.
Et c'est ça
désabusé qui... face à sa mère qui se prostitue et qui consomme de la drogue devant
c'est
lui.
C'est vrai, on voit le regard de lui quand il était enfant face à sa mère et c'est.
Je crois que c'est le plus choquant, c'est le plus terrible. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus terrible, plus que de scalper des femmes. Voilà,
mais je suis entièrement d'accord avec toi.
Mais scalper,
sur...
hein.
je vous propose de...
on va conclure avec la musique et avant on annonce notre dernier thème de la saison.
Mais je suis ravi d'ailleurs que tu aies fini sur ce film là qui chamboule tout justement sur Slasher et vraiment.
Bah, je pense que c'est une bonne chronologie parce qu'au final remonte l'évolution des Slasher au fur et à mesure du temps.
Je pense que notre sélection était pas mal.
C'est sûr que dans 10 ans va falloir faire une émission Slasher 2. Hein.
Ouais. Bah, on peut annoncer le prochain thème de l'émission, puisque ce sera le dernier, donc il n'y a pas de surprise cette fois.
Allez, la roulette quand même. Oh, c'est tombé sur le thème sport.
Oh, sport.
J'ai proposé. Voilà, donc attendez-vous à quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux.
Ce sera la dernière émission avant la pause estivale, puis on reviendra en septembre, bien sûr.
Pour la musique d'AU sur Maniac.
Elle est composée par Rob, un DJ compositeur de films qui a bossé sur plusieurs films de Grégory Levasseur et Alexandre Aja. Et le thème, c'est The Hunt.
On se quitte là-dessus. Des bisous.
Bisous.